Place Info.
Bonjour Christelle Dubos.
Bonjour.
Cette nuit, des frappes américaines ont eu lieu sur Bagdad. Le général iranien Qassem Soleimani, l'un des hommes forts de Téhéran, a été tué sur ordre direct de Donald Trump. C'est ce qu'a dit le Pentagone. Comment cette nouvelle est accueillie par le gouvernement français? Est-ce que c'est une source d'inquiétude?
C'est une situation très préoccupante et au vu de la sensibilité du sujet, vous permettrez que je ne m'exprime pas au-delà de cette situation qui est en effet sur lequel on doit être attentif.
Ça veut dire qu'il faut attendre davantage de détails, sans doute, pour s'exprimer sur le sujet.
Ce n'est pas à moi de m'exprimer en tant que secrétaire d'État en charge des ministres auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Je laisserai mes collègues qui sont sur ce sujet pouvoir s'exprimer plus largement, si vous le permettez.
Alors, il y a des sujets qui vous concernent directement. C'est notamment l'épidémie de gastro-entérite qui sévit dans 4 régions de France. Il faut les rappeler, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Pays de la Loire, Provence, Alpes, Côte d'Azur, avec des pics à Nice, selon une étude du réseau Sentinelle. Est-ce qu'elle est appelée à s'étendre?
Écoutez, comme toute épidémie, surtout en période où on vient de passer de période des fêtes, où il est propice de se rencontrer, en effet, de s'embrasser pour se fêter la nouvelle année ou un joyeux Noël, et puis avec des températures qui sont relativement douces, de fait, vous avez une propagation de la gastro-entérite qui est plus importante. Ce que nous disons au niveau du ministère de la Santé et de la Solidarité, c'est adopter les bons gestes, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, quand on tousse, on tousse dans son coude, et penser aussi à s'hydrater, notamment pour les personnes les plus vulnérables. On pense aux nourrissons, aux petits-enfants ou aux personnes âgées. Donc un point de vigilance sur l'hydratation de ces personnes-là.
On est en épidémie pour la gastro-entérite, pardon. On est en pré-épidémie pour la grippe aussi dans 6 régions. Comment on gère ce genre de situation dans une période de mobilisation sociale? Est-ce que c'est plus compliqué?
On le gère, nous avons une cellule et nous suivons l'ensemble des épidémies. La grippe, nous la suivons. Autant sur la gastro-entérite, on peut adapter des bons gestes. Autant sur la grippe, vous avez un très bon geste, c'est la vaccination de tous les professionnels qui travaillent au quotidien auprès des personnes vulnérables. Je pense aux professionnels médicaux et paramédicaux, et aussi toutes les personnes vulnérables qui ont dû recevoir un document pour aller se faire vacciner, et une première aussi sur laquelle vous pouvez aller vous faire vacciner en pharmacie, qui évite de prendre rendez-vous chez le médecin. Donc on déploie un système qui fait que vous pouvez plus largement vous faire vacciner.
Justement, sur ce point, sur cette nouveauté, la possibilité de se faire vacciner plus facilement, de façon plus accessible chez son pharmacien, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de cette campagne de vaccination?
On n'a pas encore les retours. On aura surtout un retour dès lors que l'ensemble des vaccinations seront faites. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Moi, j'invite vos auditeurs à aller se faire vacciner. C'est important. C'est aussi des conséquences graves, parfois, pour les personnes qui sont parfois enceintes et qui sont atteintes de la grippe. Donc, il faut en effet pouvoir se faire vacciner. Nous aurons tous les chiffres et nous les communiquons tous les ans à la fin des différentes épidémies sur le taux de vaccination et également sur les incidences de cette grippe.
Alors, Christelle Dubos, Édouard Philippe reçoit ce matin les ministres qui auront en charge de reprendre mardi les négociations sur la réforme des retraites. Et parmi eux, il y a Agnès Buzyn là, pour la Santé et la Solidarité, votre ministre de tutelle, avec une feuille de route très ferme édictée par Emmanuel Macron lors de son discours des vœux du Nouvel An.
Ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme.
Mener à son terme, Christelle Dubos, quelles sont les marges de manœuvre? Qu'est-ce que peut lâcher aujourd'hui le gouvernement puisqu'on ne touche pas au système à points? Apparemment, l'âge pivot demeure. Qu'est-ce qu'il reste à négocier au fond?
Ce qui reste à négocier, c'est de trouver le point de sortie avec l'ensemble des organisations syndicales et des partenaires sociaux. C'est ce que demande le président de la République, c'est ce que fait le Premier ministre et les ministres concernés au sujet de notre système de retraite. Moi, je suis convaincue qu'il faut aller au bout de la réforme. Il faut aller au bout de la réforme, pourquoi? Cette réforme, c'est pas une bataille, c'est une réforme qui est nécessaire pour sauver notre système de retraite, comme l'a rappelé le président, pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Cette système de répartition, Il ne change pas. Il reste par répartition. Ce seront toujours les actifs qui cotiseront et qui paieront les retraites des retraités actuels. Donc nous avons un système qui fonctionne. Nous avons par contre un modèle économique. Nous avons un monde du travail qui évolue, qui change, sur lequel notre système de retraite doit s'adapter et évoluer lui aussi.
Mais ça veut dire que vous n'avez rien à offrir aujourd'hui aux personnes qui sont mobilisées depuis maintenant 30 jours ?
Écoutez, moi j'entends. C'est tout le rôle des négociations et du dialogue social qui continue et qui va continuer dans les prochains jours. Moi ce que j'entends, et je suis profondément convaincue que cette réforme est nécessaire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on continue à garantir notre système de répartition et parce que, en même temps, cette réforme, elle apporte des avancées sociales majeures. Je vais vous donner peut-être deux exemples. Un exemple sur ces femmes monoparentales qui sont plus une exception en France. 2,4 millions de femmes sont monoparentales. Elles ont 1, 2, 3 enfants, elles se sont arrêtées, elles ont eu un congé parental, un congé maternité. Elles ont parfois alterné chômage, travail. Elles ont parfois subi du temps partiel pour pouvoir s'occuper de ces enfants. Quand elles arrivent à 55, 60 ans, elles se disent « au fait, ma retraite, quand est-ce que je vais pouvoir la prendre ?» Et actuellement, elles se rendent compte que leur retraite, elles ne pourront la prendre qu'à 67 ans. Avec notre nouveau système, elles pourront la prendre à 64 ans. Nous permettrons à ces femmes de travailler 3 ou 4 ans de moins. Et puis, nous avons un autre public auquel on n'entend jamais parler. Ce public de bénéficiaires du RSA. Vous avez près de 2 millions de bénéficiaires du RSA en France, dont 1 sur 2, 50% est dans le dispositif depuis plus de 4 ans.
Les précaires.
Ouais. Les personnes précaires qui ne travaillent pas et qui, quand elles reprennent un travail parce qu'elles font l'effort et c'est nécessaire et c'est important de reprendre un travail, elles reprennent un travail sur un temps partiel. Elles ne cotisent pas leur trimestre en totalité. Alors, et de fait, elles ne cotisent pas pour leur retraite.
Vous défendez, c'est normal, vous êtes membre du gouvernement, ce système qui est proposé par Emmanuel Macron, ça fait partie des promesses de campagne, mais pardonnez-moi l'expression, on promène un petit peu le chien là aujourd'hui, parce que au fond, à part les questions de pénibilité, peut-être des aspects de fin de carrière, comme le disait à l'instant Céline Asselot, il n'y a rien de neuf à négocier. En réalité.
Ce qu'il y a à négocier, c'est ce que je disais, c'est les conditions de travail et le monde du travail dans lequel la société évolue. Vous commencez de plus en plus tard et vous travaillez de plus en plus tard. Vous avez une espérance de vie qui est plus tardive aussi et donc de fait, vous êtes plus longtemps à la retraite. Il faut payer ses retraites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que actuellement, vous avez un système de pénibilité qui est pris en compte en fonction de l'entreprise et pas en fonction des métiers. Ce qui fait que quand vous êtes conducteur à la RATP, vous n'avez pas les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients qu'un conducteur qui, chez moi, sur Keolis, à Bordeaux, en Gironde, n'ont pas les mêmes prises en compte de leur pénibilité. Nous devons travailler à un système, et c'est là où on a un système qui doit être universel, la pénibilité en fonction d'un métier, d'une carrière et pas d'une entreprise.
On va continuer à parler évidemment de cette réforme des retraites, de la mobilisation qui se poursuit, 30e jour de mobilisation avec vous, Christelle Dubos. Dans un instant, d'abord à 8h40, le rappel de l'actualité de ce vendredi matin, c'est avec Marc Potvin.
Le régime iranien promet des représailles après la mort d'un de ses principaux généraux. Vengeance, crie le guide suprême. Le président de l'Iran lui évoque une revanche avec l'aide d'autres nations de la région. Qassem Soleimani a été tué dans une frappe américaine à Bagdad, en Irak. Les vacances de Noël touchent à leur fin et la grève continue dans les transports. 30e jour aujourd'hui. La SNCF promet 2 TGV sur 3 en circulation de ce vendredi à dimanche. L'État s'assoit sur une décision de justice. Réaction de l'association environnementale ZEA après le feu vert de la préfecture des Bouches-du-Rhône accordé à l'usine Alteo de Gardanne. 5 mois de plus pour mettre en conformité ses rejets liquides dans les calanques avec les normes environnementales. La justice lui donnait jusqu'au 31 décembre pour être dans les clous. Et puis le nombre de cas de gastro-entérite explose en l'espace d'une semaine, plus 60% d'après le réseau Sentinelle qui scrute la progression de l'épidémie. Elle concerne désormais une grande partie de la Bretagne, du Grand Est, du Centre Val-de-Loire et quasiment tout le quart sud-ouest. C'est du jamais vu depuis 2013.
France Info. Et tout est plus clair.
Christelle Dubos, vous nous disiez tout à l'heure pourquoi il était important pour vous que cette réforme soit menée à son terme. Quels sont les Français qui allaient en être bénéficiaires? Est-ce que c'est pas un constat d'échec aussi que de devoir réexpliquer encore, toujours, de devoir faire de la pédagogie sur cette réforme alors qu'on est à 30 jours de mobilisation? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour ça?
Je crois que l'information, elle est importante du début jusqu'à la fin et nous devons continuer à informer les Français et beaucoup de Français comprennent qu'il faut porter un système de retraite nouveau et réformé pour pouvoir sauver nos retraites pour les générations futures, notre système de retraite pour les générations futures. Nous devons continuer à expliquer, nous devons continuer à expliquer surtout aux Français pourquoi ce système, ce nouveau système sera important pour
nous. Alors Christelle Dubos, après la série d'aménagements, parce que j'insiste, hein, il y a des aménagements qui sont consentis, on a parlé des policiers, des pilotes, des danseurs de l'Opéra de Paris et autres peut-être, est-ce qu'on peut encore parler de système universel, c'est ce que vous défendez ce matin. Un rappel, cette affirmation d'Édouard Philippe, le Premier ministre, c'était le 11 décembre dernier.
La confiance sera enfin plus forte s'il n'y a pas d'exception à l'universalité du régime. Universel, ça veut dire pour tout le monde. Pour le plombier ou l'informaticien. Pour l'agriculteur ou le douanier. Pour le chercheur ou l'écrivain. Pour le député ou le conducteur de train, pour tout le monde.
Christelle Dubos, vous l'entendez, c'est le Premier ministre de la France, il dit pas d'exception à l'universalité du système, or il n'y a que des exceptions qui arrivent.
L'universalité, elle est maintenue, l'universalité, elle est encore plus présente quand vous ouvrez des droits à des retraites pour des personnes qui actuellement n'ont pas accès. Je pense à ces personnes qui travaillent en temps partiel, je pense à ces étudiants qui, pour financer leurs études, travaillent...
Mais les policiers, les autres et tout le monde, pourquoi pas d'ailleurs, je ne conteste pas l'idée d'aider des personnes à partir à la retraite, mais le principe d'université est déjà battu en brèche. On fait de la haute couture, du cas par cas pour éteindre la contestation.
C'est pas pour éteindre la contestation, c'est pour prendre en compte les problématiques des uns et des autres et des différentes filières et des différents métiers. La pénibilité, elle n'est pas la même que vous soyez plombier ou que vous soyez policier. La pénibilité, elle n'est pas la même...
Mais ça, nous sommes d'accord.
Mais c'est ce que nous prenons en compte. C'est là-dessus que nous travaillons. C'est sur ce système-là que nous devons trouver un point de sortie sur à quel âge doit-on partir en fonction de la pénibilité, en fonction du monde dans lequel vous travaillez. Actuellement, la pénibilité, si je prends un exemple sur les infirmiers et les aides-soignants, que vous travaillez dans le public ou dans le privé, vous n'avez pas la même prise en compte, vous n'avez pas le même droit à la retraite. C'est ce que nous travaillons pour trouver un système qui, en effet, que vous soyez infirmier ou infirmière dans le public ou dans le privé, vous ayez les mêmes droits, les mêmes accès. Cette retraite, elle est nécessaire, elle est importante, c'est l'universalité. À chaque heure travaillée, vous cotiserez à votre retraite. Actuellement, vous devez faire 150 heures, et encore, je vous passe les détails, pour valider un trimestre. Vous avez des gens qui travaillent pour rien.
Mais quand on dit aujourd'hui, c'est un régime universel, mais pas uniforme, parce que c'est le message qu'on entend depuis quelques semaines de la part du gouvernement. Est-ce que c'est pas un peu compliqué à comprendre, à défendre auprès des Français? Parce que c'était pas ça qui était promis au départ.
Quand on dit universel, c'est que tous les Français vont pouvoir y avoir accès. Quand actuellement, vous avez un système où des personnes travaillent et ne cotisent pas, elles ne connaîtront pas...
Alors, elles ne cotisent pas la retraite. C'est universel au cas par cas, en fait.
C'est universel. Ouais. C'est universel parce que tous les Français qui travaillent une heure vont cotiser à leur retraite. Actuellement, ça n'est pas le cas. Et universel dans le sens où, en fonction de votre métier, vous aurez une prise en compte de votre retraite pour plus tard, en suivant.
Franchement, Christelle Dubos, cette légion d'honneur, cette promotion à l'endroit de Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock, avec, au fond, le climat social aujourd'hui, est-ce que c'était une maladresse?
Cette polémique, elle est bien vaine. Jean-François Cirelli a cette reconnaissance de la Légion d'honneur pour plus de 35 ans de service d'État, et uniquement pour ces 35 ans de service d'État. Il a été conseiller auprès de Jacques Chirac, il a été conseiller auprès de Premier ministre Raffarin, il a été président et vice-président d'une entreprise publique, il a travaillé pour le service de l'État, c'est uniquement pour ces raisons-là, que nous lui remettons cette reconnaissance.
Vous comprenez qu'en termes de timing, récompenser le patron français d'un fonds de pension américain, alors que beaucoup s'inquiètent justement d'une mainmise des fonds de pension sur les retraites françaises avec cette réforme, c'est un peu compliqué?
Écoutez, moi je suis très déçue, parce que c'est une polémique qui arrive et qui vient miner le débat public. Je suis très déçue par les oppositions qui apportent ces fausses informations et qui viennent avec ces fausses informations miner un débat sur lequel nous devons travailler, nous devons apporter des solutions pour les Français, et qui fait en sorte que les Français, du coup, ne se retrouvent pas dans ce que nous devons dire. Et je reviens sur ce que vous disiez sur l'information. Ouais. Nous devons informer les Français et trouver les bonnes informations plutôt que de divulguer des mauvaises informations qui viennent miner ce débat public.
Donc vous reconnaissez ce matin, pardon d'insister, que c'est peut-être une maladresse au moment où des personnalités comme vous tentent d'essayer d'expliquer, on va dire, la réforme des retraites.
Peut-être expliquer que la promotion 2020 sont plus de 400 personnes qui vont être décorées par cette légion d'honneur. Et donc, de fait, aller chercher la personne qui, dedans, peut porter polémique, je trouve ça un peu décevant.
Oui, allez-y, non, Céline Asselineau.
Les négociations reprennent mardi.
Oui.
Comment ça va se passer? Est-ce que vous espérez le compromis rapide qu'Emmanuel Macron a appelé de ses vœux? Est-ce que c'est possible que la semaine prochaine, on trouve une résolution à ce conflit social?
J'ai pas de boule de cristal. Je vais pas vous dire.
Est-ce que vous êtes confiante, en tout cas,
ce qu'on espère. C'est tout le travail du dialogue social. Vous savez, quand on a une réforme sur les retraites, qui est un sujet sensible, qui soulève des inquiétudes, elles sont légitimes, ces inquiétudes. Le dialogue social sert à ça. Il sert à trouver ensemble des solutions et pas trouver des boucs émissaires, mais trouver ensemble des solutions.
Christelle Dubos, est-ce que vous jouez aujourd'hui, quand je dis vous, c'est le gouvernement, l'opinion publique contre les grévistes qui paralysent, même avec une faible mobilisation pendant les fêtes, les transports, notamment en Île-de-France, et bientôt peut-être les raffineries, les dépôts de carburant, puisque la CGT appelle au blocage du 7 au 10 janvier. Est-ce que vous jouez désormais l'opinion contre les grévistes?
Non, il n'y a pas à jouer l'opinion contre les grévistes. Nous avons demandé une trêve. Ce que nous disons, c'est que nous avons travaillé avec la SNCF, la RATP, pour qu'il y ait un minimum de services, des trains et de transports au quotidien. C'est un travail que nous avons fait. Par contre, nous condamnons les blocages illégaux et les syndicats eux-mêmes les condamnent également. Donc nous travaillons ensemble pour trouver une solution et trouver la voie de sortie la plus rapide possible.
Mais est-ce que vous ne misez pas sur la lassitude finalement des Français qui sont pénalisés pour une partie, notamment en Île-de-France, par cette longue grève dans les transports pour... Peut-être finalement se dire, bon, on va finir par la soutenir, cette réforme.
Non, il n'est pas question de faire la méthode de pourrissement telle qu'on peut l'entendre. C'est hors de question que l'on fasse ça. Nous sommes dans un système où, moi j'entends les difficultés essentiellement des franciliens, puisque sur d'autres régions, il y a moins d'impact, hormis sur du transport au niveau national par rapport au ferroviaire. Il y a moins d'impact, j'entends. Nous essayons de trouver les solutions pour que au quotidien soit plus facile et moins pénible pour l'ensemble des personnes qui ont besoin de se déplacer. Mais de fait, nous travaillons et les consultations continuent. Elles n'ont jamais arrêté. Elles ont toujours été... tout le monde a été autour de la table à trouver les bonnes solutions, les bons compromis, de façon à ce que ce dialogue social soit réel et puisse aboutir à une réforme des retraites nécessaire.
Merci beaucoup, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, d'être passée sur le plateau de France Info. Merci à vous, Jean-François Akili.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.